Bienvenue, ne pas oublier qu'on est enregistré. Donc le cours de ce soir, c'est enregistré mon détail, ça y est.
Ouais, c'est lancé, ouais.
Donc le cours de ce soir est offert par la famille Zerbib, Refouach Shelema de Yosef Haïm Zerbib, belle fortunée, Refouach Shelema, Amen. Donc à toi mon détail.
Alors, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi du retard, c'est un problème technique, mais on y va, on va commencer. Alors ce soir, on va voir le dernier cours de notre introduction. Je rappelle, on est le cinquième cours et on va donc terminer les cours d'introduction au Melachot Shabbat. C'est-à-dire que Be'ezrat Hashem, dès la semaine prochaine, on va commencer l'étude des Melachot plus en détail, plus pratique, plus simple. Ça va être des cours déjà plus clairs, beaucoup plus simples et plus accessibles. Mais donc on nous reste un dernier cours, et ce dernier cours se prendra aujourd'hui sur l'introduction au principe des Melachot de Shabbat. Alors juste avant de dire, je répète encore une fois pour ce cours, que toute l'idée qu'on fait des cours par Skype, c'est que ça soit un cours en direct. Ça veut dire qu'il y ait un échange de questions-réponses entre ce que j'enseigne et entre vous. C'est-à-dire, tout d'abord pour savoir est-ce que vous me suivez, est-ce que vous suivez bien ce que je suis en train de dire, est-ce que ça a bien été intégré, est-ce que ça a bien été compris. Mais surtout l'essentiel, c'est que ça soit des bonnes questions. C'est-à-dire que ce ne soit pas des questions hors sujet, ça soit des questions qui sont directement liées avec ce que je dis, des questions que pour bien être sûr que tout est compris, ou bien il y a peut-être quelqu'un qui a honte de poser les questions. Lorsque quelqu'un un demande, alors grâce à sa question, on comprend ce qui a été dit. On résume, on comprend, on explique mieux. Donc il y a beaucoup d'intérêt, c'est ça en fait tout l'intérêt de faire des cours en direct. Donc je vous demande de participer intelligemment et directement à ce qu'on est en train d'étudier. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire le dernier cours d'introduction. Et ce cours-là, il va être un peu complexe, mais je vais vous le simplifier. Je vais essayer de bien expliquer doucement. On peut pas, c'est inévitable, on peut pas sauter sur ça. Vous allez voir qu'on va dans la fin de Shabbat, on va beaucoup utiliser. Mais sauf si vous êtes bien concentré, ça va être simple. Vous allez voir. Alors, on va résumer d'abord brièvement le cours de la semaine dernière. Au cours de la semaine dernière, on a parlé, si vous vous rappelez, de six conditions. En fait, c'est un petit peu du cours de l'avant-dernier cours et surtout le cours de la semaine dernière. On a parlé des conditions pour que quelqu'un transgresse et accomplit un interdit de la Torah, c'est-à-dire, en d'autres termes, Melacha, le jour du Shabbat. C'est-à-dire, pour qu'on dise que cette personne ait transgressé un interdit de la Torah, qu'on appellera, si vous vous rappelez, Chayav, d'accord, sous ses différentes formes, et bien il faut un certain nombre de conditions réunies. Lorsque toutes les conditions sont réunies, on peut dire que cette personne a transgressé une interdiction de la Torah. Dès qu'il manque une des conditions, tout de suite on descend de niveau, et ça s'appelle plus Chayav, ça s'appelle Patour. Mais Patour avala sour. Ça veut dire que c'est quand même interdit par les Chachamim. Alors, je vous rappelais brièvement, on a vu six conditions. C'est-à-dire que six conditions réunies, soient remplies, pour l'instant, oui, ce qu'on a vu, c'est un interdit de la Torah. Alors, je rappelle brièvement, première condition qu'on a vue, il faut que la Melacha ait un but, il faut que l'homme ait pensé au but lorsqu'il a fait la Melacha. Ça s'appelle en hébreu Melacha Shetzricha Legufa. D'où je veux savoir quel but de chaque action. C'est l'action qu'on faisait pour la construction du Mishkan avec un but précis. Exemple, chaque condition elle a un exemple. Oui. L'exemple elle est quelqu'un qui creuse un trou, on va dire dans une surface un chantier où on va construire. Donc il creuse un trou. Normalement un trou c'est pour faire des fondations, le but. Mais lui, son but, c'est d'utiliser la terre. C'est pas du tout de faire une fondation. Donc, faire un acte de Melacha, c'est bonnet, c'est la mélacha de construire, mais c'est la mélacha de construire, mais il n'y a pas le but. Le but ici, il a pensé à un autre but, rien à voir avec la construction. Il a pensé à utiliser la terre, donc c'est, il manque une condition, il n'y a pas le but ici, il n'a pas pensé au but. Donc on descend de niveau, ça devient assaut mi des rabanan. Ensuite on a vu, il faut que ça s'appelle melacha, c'est-à-dire il faut que ça soit un acte constructif. Rappelez-vous l'exemple qu'on a donné, un qui déchire un habit pour calmer ses nerfs et l'autre qui déchire, un couturier qui déchire un habit. Un couturier qui déchire, c'est constructif parce qu'il va coudre derrière, mais quelqu'un qui déchire pour déchirer, il est en train d'abîmer. Un acte qui abîme, un acte qui n'est pas constructif, c'est pas un acte qui est interdit par la Torah. Ensuite, on a vu, une melacha, il faut qu'elle dure. Un acte de la Torah, il faut que ça dure. Si ça ne dure pas, il n'y a pas de issur de la Torah. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui écrit sur la buée d'une vitre. Ça ne tient pas. C'est pas comme ça qu'on écrit. On écrit sur un papier pour que ça dure. Ça va attendre que ça passe un peu de temps, l'écriture ne va pas rester. Donc il faut mon acte, il reste, il dure. Maintenant, je veux juste rajouter quelque chose par rapport à la semaine dernière, dans cette condition. Pas rajouter, en fait, mieux expliquer. La semaine dernière, je vous ai dit que si c'est la manière de faire une melacha, que tout le monde fait comme ça, de cette manière, mais la personne, elle a pensé de ne pas faire durer cette action. Alors là, on ne peut pas dire que c'est un acte qui ne dure pas. Alors ça, c'était un peu mal expliqué ou c'est pas clair. Je vous donne un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Pardon ? J'entends pas. J'entends des bruits de fond. D'accord, on continue.
C'est vous, Rose, qui venez de vous connecter, madame Amselem ?
Ah, c'est moi, c'est Rose.
Très bien, je sais pas si c'est un problème d'enfant, je sais pas si c'est là ou ailleurs.
Ah, j'avais ma petite fille qui pleurait. Donc, merci,
coupe le son.
Bonne idée, je suis déjà avec les écouteurs, alors je ne sais pas trop.
Coupe le son, c'est le petit micro que vous avez devant. Voilà. Un micro. Juste couper le micro et ça coupe votre son. Très bien. Alors, on continue.
On continue. On était dans la condition qu'il faut que l'acte, l'interdit que je suis en train de faire et la melacha que je suis en train de faire, il faut qu'elle dure. Une melacha qui ne dure pas, c'est pas une melacha. C'est pas un interdit de la Torah. Et on descend de niveau et c'est un interdit de Rabbanan. Exemple, quelqu'un qui écrit sur la buée d'une vitre, ça tient pas. Ça tient pas comme sur une feuille. Maintenant, il faut bien préciser que si jamais l'intention de la personne, elle est de ne pas faire durer l'acte, mais que l'ensemble des gens en général la font durer, alors là, on ne va pas dire que je regarde la personne individuellement, je dis, je ne l'ai pas fait durer. Non, là, on dit que ton action, elle est annulée devant la majeure partie des hommes. Explication, je vais expliquer tout de suite, vous allez comprendre. Quelqu'un, Naguib, il écrit 5 minutes avant la sortie de Shabbat. Il écrit, et après, dès que Shabbat est sorti, il déchire la feuille. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, cette personne, en fait? Elle a écrit. Mais est-ce que ça a duré? Ça n'a pas duré. C'est resté 5 minutes. Il a déchiré la feuille 5 minutes après. Il a écrit 5 minutes avant la sortie de Shabbat. Dès que Shabbat est sorti, il a pris la feuille et il a déchiré. Maintenant, son acte qu'il a fait, qu'il a melacha d'écrire, elle n'a pas duré. Alors là, c'est sûr qu'on ne va pas dire que ça s'appelle un acte qui ne dure pas. C'est évident. Parce que l'acte qu'il est en train de faire, d'après tout le monde, c'est un acte qui dure. Le fait qu'il a pensé que ça ne va pas durer, ça ne rentre pas dans cette condition. On parle des choses qui ne tiennent pas selon la majeure partie des gens. Comme l'exemple de la buée de la vitre. Ça ne tient pas. Donc si ça ne tient pas, ce n'est pas un acte interdit par la Torah. Ensuite, d'accord, donc ça c'est deuxième, troisième condition. Ensuite, quatrième et cinquième condition. Il faut que ça soit un acte qui n'est pas bizarre et qui est fait par une personne. Ça c'est la quatrième et la cinquième condition. Un acte qui est fait de manière... qui est fait par deux personnes ensemble, et on a bien précisé que chacun des deux peut la faire seul. On a dit par exemple porter d'un domaine privé à un domaine public un objet on va dire une chaise, que tout le monde peut porter la chaise seule. Mais les deux, ils décident de la porter ensemble. Alors là, c'est pas un acte interdit par la Torah. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait un acte. Si tu peux la porter seule, pourquoi tu la portes avec quelqu'un? Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un qui se trouve dans le domaine public. Chacun fait la moitié de la mélacha. Alors là aussi, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui peut faire la mélacha, qui la fait du début jusqu'à la fin. Dès qu'une mélacha se partage entre deux personnes, ou bien dans la manière de la faire, qu'on prend cette action et qu'on la partage en deux, ou bien même dans la totalité de l'action, que deux personnes qui peuvent la faire chacun séparément, seules, la font ensemble, alors là, c'est plus le lotaasé, mélacha, ça ne rentre pas dans l'acte de la Torah, et on descend de niveau et c'est assur, c'est pas interdit par les chachamim. Ensuite, on a vu un acte qui est fait de manière anormale. Ça aussi, la Torah, elle n'a pas interdit. La Torah, quand elle dit « ne fais pas de melacha », c'est une action importante, on fait ça de manière normale. Exemple, quelqu'un qui écrit avec la main gauche. Il y a tous les critères de la melacha ici. Il prend un stylo, une feuille, il écrit. Sans il écrit de la main gauche, si c'est un droitier, bien sûr. Alors, le fait d'écrire avec la main gauche pour un droitier, c'est une mauvaise écriture. Donc, ce n'est pas une bonne melacha, ça. Donc, ce n'est pas interdit de la Torah. Ça s'appelle « shinui ». Faire un « shinui », faire quelque chose de anormal, une anomalie dans la mélacha. Une mélacha qui sort mal dans sa conséquence, on ne peut pas l'interdire par la Torah. Ça, c'est la quatrième et cinquième condition. Dernière condition qu'on a vue à la fin du shiur, c'est le grama, c'est-à-dire causer. Ça, on a bien détaillé. Je vais en très bref. C'est le grama, une action qui se fait qui n'a rien à voir avec l'interdit de la Torah, mais qui va causer l'interdit de la Torah. C'est ça le mot grama. Grama, c'est causer. Ça va causer l'interdit de la Torah. Mais lorsque je fais ces choses-là, je ne suis pas du tout en train de commencer le processus de l'action interdite. Rappelez-vous l'exemple de la cruche que je mets en face du feu, quand il y a une perte de bien. Donc il y a la nappe, on va dire, elle commence à prendre feu, il n'y a pas de risque de vie. Donc on entoure la nappe de bouteilles d'eau. Donc lorsque je mets la bouteille d'eau, lorsque je suis en train de mettre, je ne suis pas en train d'éteindre du tout. Je fais une action qui va causer que ça va s'éteindre. Deuxième chose, lorsque je mets la bouteille d'eau, je ne suis pas en train de commencer le processus d'extinction. Ça va s'éteindre plus tard, dans les minutes à venir. Donc ça s'appelle une autre action qui va causer directement l'action interdite, mais l'action interdite n'a pas commencé. Ça s'appelle grama. La Torah nous a dit lo ta'ase, tu ne fais pas directement de melacha. Dès que c'est indirect, alors là, comme on a bien expliqué, c'est-à-dire une action différente et que le processus n'a pas commencé, alors là, c'est on descend de niveau et ça devient assur mi derabanan. D'accord? Ça s'appelle en fait patour. La dernière phrase, j'ai dit que lorsque on toutes ces conditions réunies sont accomplies, c'est toutes les conditions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire en bref, je fais l'action. C'est-à-dire je choisis une des dans la liste des 39, on va dire, ou dans les dérivés des 39. Je choisis une action. Cette action, je la fais avec le but qui a été fait dans le Mishkan. C'est une action qui va durer. C'est une action qui est constructive. C'est une action qui est normale, que je la fais seule et qui est directe. Ça, c'est en une phrase, toutes les six conditions. Lorsque les six conditions réunies, alors là, l'homme, quelqu'un qui fait cette action, il est Chayav Minatora. S'il fait ça de manière volontaire, il est Chayav Karet. S'il fait ça de manière involontaire, ou il ne sait pas que c'est Shabbat, ou il ne sait pas que c'est interdit, il est Chayav Korban Khatat. En tout cas, il a transgressé l'interdit de la Torah. Dès qu'il manque une des conditions, une des six conditions que je viens de citer, eh ben on descend de niveau et ça devient un Issour des Rabbanan. D'accord? Ça devient un Issour des Rabbanan. Maintenant, pardon?
Yona, vous êtes connectée, c'est bon?
Oui, je suis là, oui, merci.
Très bien.
Maintenant, je rappelle quelque chose que j'ai dit dans les cours d'avant, bien sûr. Que ça peut me faire si c'est un issour des Rabbanan ou si c'est un issour des Oraita? Les deux, c'est interdit. Je n'ai pas le droit. Là, c'est quoi d'abord l'interdit d'Oraita? L'interdit d'Oraita, c'est la liste des 39 actions qui ont été faites à la construction du Mishkan, que la Torah nous a allusionné lorsqu'il nous a dit « ne fais pas de Melacha ». Ça, c'est les interdits de la Torah. Maintenant, dans un des cours, un des premiers cours, on a expliqué que les Chachamim, qui ont pour rôle de renforcer les interdits de la Torah, ont interdit toutes sortes d'actions le jour du Shabbat, avec toutes sortes d'explications pourquoi ils ont interdit. Donc il y a des exemples, on va dire, par exemple, déplacer un stylo le jour du Shabbat, c'est Mouktsé. Ça rentre pas du tout dans les Melachot de Shabbat. C'est un interdit des Chachamim. Donc il y a toutes sortes d'interdits de Chachamim. Toutes sortes d'explications et toutes sortes de sortes, comme on a expliqué une fois, dans le deuxième cours. Donc maintenant, ça, c'est un interdit des Rabbanan. Maintenant, il y a un deuxième sort d'interdit des Rabbanan. Un acte de la Torah qui va manquer une des six conditions qu'on vient de citer. Donc, il manque une condition, on descend le niveau, et ça est sur des Rabbanan. Donc maintenant, on va dire que si ça est sur des Rabbanan, ou si ça est sur d'Oraïta, les deux, j'ai pas le droit de le faire. Vous allez voir par la suite, dans tous les cours qu'on va donner par la suite, qu'il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent à des interdits des Rabbanan et un certain nombre de règles qui s'appliquent à des interdits de la Torah. Et beaucoup de règles vont changer l'interdit des Rabbanan en permis. Ce qui est quasiment pas le cas, sauf à quelques exceptions près, dans l'interdit de la Torah. Que dans l'interdit de la Torah, lorsqu'il manque des conditions, on descend le niveau et ça devient un issour des Rabbanan, on ne permet pas. Donc l'importance qu'il y a de savoir si c'est un interdit des Chachamim ou si c'est un interdit de la Torah, c'est pour après commencer à travailler avec ça après et voir et appliquer un certain nombre de règles. Et vous allez voir qu'il y a si on applique des règles quelconques qu'on va étudier tout au long des Shiurim, eh ben, il y a des interdits des Rabbanan qui deviendront permis. Donc c'est très important de définir, et en fait c'est ça la base de tous nos cours, qu'on va, à partir de la semaine prochaine, qu'on va commencer à définir toutes les melachot. On va d'abord étudier quelle est la melacha interdite, ensuite autour de ça, quels sont les interdits des chachamim, dans chaque melacha et chaque melacha, dans un premier temps. Et après vous allez voir que c'est très très important de savoir est-ce que c'est un interdit par les chachamim ou interdit par la Torah, pour pouvoir appliquer ces règles dans l'étude, mais dans l'action. C'est-à-dire quelqu'un qui va agir, qui a agi, qui a fait un issour des Rabbanan, qui a fait un issour de la Torah, c'est aussi grave. Parce que la Torah nous a dit d'écouter les Chachamim. Seulement, dans l'acte, on est bien d'accord qu'un écrit qui est interdit clairement par la Torah, même s'il n'est pas écrit noir sur blanc dans le Sefer Torah, mais il fait partie de la Torah chez Béalpé, qui est l'explication de la Torah, c'est un titre de issour de la Torah. Les 39 Melachot, comme on a expliqué, ils ne sont pas écrits dans la Torah. Mais c'est interdit de Torah, puisque c'est la loi orale. La loi orale écrite, c'est exactement le même niveau. Donc ça, c'est un interdit qui est par la Torah. Donc c'est un interdit qui est dit par la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Tandis qu'un interdit des Chachamim, c'est un interdit qui vient l'origine des Chachamim. Donc c'est évident que ça n'a pas le même niveau. Mais c'est comme si, par exemple, je vous dis, un camion qui pèse, on va dire 800 000 tonnes, et un autre camion qui pèse 600 000 tonnes. Enfin, un camion, on va dire un convoi. Un, il pèse 800 000 tonnes, l'autre, il pèse 600 000 tonnes. C'est une différence dans le poids. C'est pareil. Quelqu'un qui transgresse un interdit des Chachamim, quelqu'un qui transgresse un interdit de la Torah, dans la gravité de l'acte de la personne qui a fait, dans la transgression, c'est pareil. On ne va pas faire de différence là-dessus. On ne peut pas dire, ah, c'est les Chachamim, peut-être que moi, je suis plus intelligent que les Chachamim. Chachamim, en hébreu, c'est Milachon. Chacham, chacham, c'est intelligent. Donc on peut dire, moi peut-être je suis plus intelligent, et si eux ils interdisent ça, moi je pense qu'on ne doit pas interdire cette chose-là. Ça c'est grave. Ça c'est l'interdit des chachamim. On n'est pas du tout à la hauteur des chachamim. De quel chachamim on parle, comme je vous ai dit dans les cours d'avant? On parle des chachamim de Mishnah, de la Mishnah, des Tanaïm, des Amoraïm, que chacun avait un pouvoir de faire revivre des morts. On parle des gens qui sont très 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 loin de nous dans notre compréhension et dans notre niveau. Donc ça, c'est l'interdit des Chachamim. Seulement, comme vous voyez, à chaque fois je précise, est-ce que c'est un interdit de la Torah et un interdit des Rabbanan? Parce que dans les règles d'étude de la Chod de Shabbat, ça va être, il va y avoir beaucoup, beaucoup de différences entre les interdits qui sont Minatora et les interdits des Rabbanan. Donc, il faut différencier entre une personne qui transgresse un interdit des Chachamim et de la Torah, ou bien la définir quel est l'interdit pour pouvoir utiliser un certain nombre de règles pour les interdits de la Torah et des Chachamim. Maintenant, venons continuer, je vais faire juste une petite précision. Si maintenant j'ai un interdit des Chachamim, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout un interdit de la Torah, d'accord ? Un interdit des Chachamim. Et cet interdit des Chachamim, puisque Chachamim, lorsqu'ils interdisent des choses, c'est, ça ressemble à la Torah, ils font ça à l'image de la Torah. Donc il faudra aussi toutes les conditions qu'on a dit. Première condition, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Maintenant, s'il manque une des conditions dans un interdit qui est purement des Chachamim, qui n'est pas du tout une action Melacha, alors là c'est intéressant. Là on ne va pas pouvoir donner de règles. Est-ce qu'on va descendre de niveau de interdit Chachamim à Moutard? Parce que de la même manière qu'on a descendu de niveau avec un interdit de la Torah, qui manquait une des conditions, et qu'on est descendu de Issur Torah à un Issur de Chachamim, si j'ai maintenant un Issur de Rabbanan, un Issur qui est purement de Chachamim, et qui va me manquer une des conditions, est-ce qu'on va descendre de niveau et on va dire Moutard, ou bien quand même ça reste à Sourmi de Rabbanan? Alors là c'est impossible de donner une règle là-dessus. Vous allez voir que ça dépend de beaucoup, beaucoup de critères, et beaucoup de, du, ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ça, chaque chose, on va voir, Bifnim, est-ce que Béhémet, on va utiliser ces règles, on va permettre ces choses-là, ou on ne va pas permettre ces choses-là. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Il y a une mélacha, il interdit, qui s'appelle Tochen. Tochen, c'est moudre. Donc on va dire quelqu'un qui prend un exemple, c'est qui va moudre comme il faut. Il va prendre un pilon. Mais tout avec le haut et le bas, le pilon lui-même et la carafe du pilon. Quelqu'un il va dire, on va dire qu'il prend une amande et il la casse là-bas en morceaux comme il faut dans le pilon, c'est un interdit de la Torah. C'est Menechet Tochen, c'est moudre. Maintenant on va dire qu'il prend le pilon lui-même, mais au lieu de prendre la carafe qui est appropriée au pilon, qui est fait spécialement pour ça, il prend une assiette d'un service. Alors là, d'après les règles qu'on a vues, qu'on a étudiées, d'après les conditions, quelles conditions il nous manque ici? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles conditions il nous manque ici lorsque quelqu'un prend le pilon lui-même, mais il prend l'amande, au lieu de la casser dans l'assiette qui est appropriée au pilon qui est fait pour ça, il prend une assiette d'un service. Et il commence à casser sur la noix, sur l'amande. Est-ce qu'il fait un sourd Torah ou pas? Est-ce qu'il s'appelle qu'il est en train de moudre? Pourquoi? C'est, il a fait mal. C'est, il nous manque la condition qui est anormale. D'accord, c'est anormal. C'est pas comme ça qu'on moue. On prend pas une assiette d'un service. Donc, il est en train de faire quelque chose d'anormal. Donc, la condition, je me rappelle plus si c'est la 4 ou la 5. D'accord, la 4e ou la 5e condition. Qu'il faut que ça soit une action normale. Elle n'a pas été accomplie. On descend de niveau. Ça devient un interdit des Chachamim. Maintenant, on va dire que cette même personne, elle décide de prendre le manche d'un couteau, ou le manche, on va dire un couteau, ou le manche d'une fourchette, avec l'assiette de service, et elle commence à, même la même action, elle commence à piler son amande. Et son amande, bébé, se casse en plusieurs morceaux. Alors là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait déjà une première chose anormale. Mais on fait une deuxième chose anormale. Pas seulement on change. Sur l'action initiale, c'était avec le pilon et son assiette appropriée. Le pilon lui-même, son ensemble. C'est là-bas, ça s'appelle le bien pilé. Mais là, j'ai fait deux changements. Donc, je descends de deux niveaux. Il y a deux chinouïm, il y a deux choses anormales ici. Quelqu'un qui veut faire une poudre d'amande, il ne va pas prendre un couteau, il ne va pas prendre une assiette de service. Donc là, il y a deux chinouïs. Même si la personne, elle arrive avec beaucoup de mal à piler cette amande, c'est moutard. Ça devient permis. Parce que là, on a descendu de deux niveaux. Donc ça, un exemple pour montrer que des fois, lorsque dans l'interdit des Rabbanan, qui nous manque eux aussi une condition, on va descendre du niveau, on va permettre. Mais ce n'est pas partout. Si par exemple, on reprend l'exemple des cruches, que je vous ai dit tout à l'heure dans le gramma, venons réfléchir ici. Qu'est-ce qui se passe? on a du feu. On veut éteindre le feu. Et donc, on cause, d'accord, je cause l'extinction en mettant des bouteilles d'eau autour. Donc là, éteindre le feu déjà, éteindre le feu, c'est un interdit des Chachamim. Ce n'est pas un interdit de la Torah. Croyez-moi sur parole, on va voir ça lorsqu'on va étudier la Melacha d'éteindre le feu. Je ne veux pas détailler ici les exemples. Rappelez-vous, les exemples que je donne, c'est juste pour qu'on comprenne, que ce soit pour essayer de comprendre. Et donc maintenant, je mets ces cruches d'eau là autour du feu. Le feu, il est là. Éteindre le feu, c'est un interdit des Chachamim. Donc maintenant, l'interdit des Chachamim qui est éteindre. Pardon? Non, éteindre un feu, c'est Chachamim. Pourquoi c'est Chachamim? J'ai dit qu'aujourd'hui, je n'explique pas pourquoi c'est Chachamim. Croyez-moi sur parole que c'est Chachamim. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire, parce que vous vous demandez, au Mishkan, le but, rappelez-vous la première condition, qu'il faut qu'il y ait un but à mon interdit de la Torah. C'est vrai que éteindre, elle fait partie de la liste des 39. Mais au Mishkan, il y avait un but précis. On éteignait le feu pour utiliser les cendres. Mais lorsque quelqu'un éteint un feu, on est d'accord qu'il n'est pas du tout en train de penser à fabriquer des cendres ici. Il veut juste éteindre, il veut que le feu disparaisse. Donc, c'est melacha she'enat tzricha legufa. C'est une action où il manque le but. Donc, on est déjà une action qui descend de niveau. Il manque la première condition. C'est une action qui est interdite par les chachamim. Ça ne devient pas tour. D'accord? Maintenant, lorsque je fais grama, c'est-à-dire que je n'éteins pas directement, je cause que ça va s'éteindre. Donc, c'est un interdit des Rabbanan qui manque une condition. Alors là, les Chachamim ont permis, ça devient moutard, mais pas dans tous les cas. Ils ont permis que s'il y a une perte d'argent. S'il n'y a pas une perte de biens, s'il n'y a pas une grande perte, les Chachamim n'ont pas permis. Donc, vous voyez que descendre de niveau dans les conditions d'un interdit de la Torah, automatiquement, ça devient un interdit des Rabbanan. Mais descendre de niveau dans un interdit des Rabbanan, ce n'est pas automatique, ça dépend de beaucoup, beaucoup de critères. Donc on ne peut pas donner de règles là-dessus. Mais au moins le principe, vous avez compris. Toutes les conditions réunies, ça sera interdit. Si ça l'interdit la Torah, ça sera interdit par la Torah. Si ça l'interdit la Rabbanan, ça sera interdit par la Rabbanan. Dès qu'il nous manque une des conditions, on descend de niveau. Descend de niveau, ça veut dire interdit de la Torah, ça se transforme en interdit de la Rabbanan. Mais l'interdit de la Rabbanan, des fois ça va être permis, des fois ça va rester à sourd. Impossible d'expliquer pourquoi. Tout dépend de chaque cas. De manière individuelle et du contexte et de encore beaucoup de choses comme on va étudier tout le long des chiouris. Voilà. Est-ce que c'est compréhensible ce qu'on vient de dire? Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est clair pour tout le monde?
Oui.
Bon. Alors on continue. Maintenant aujourd'hui on va commencer en fait le vrai chiot. J'espère qu'on a assez de temps. Voilà. On a 10 minutes, on peut se rattacher, on va essayer d'expliquer de manière sincère. Maintenant, on va attaquer la huitième condition. Alors, celle-là, je l'ai laissée pour la fin, parce qu'elle est assez détaillée. La huitième condition. Pareil, on revient aux interdits de la Torah. Un interdit de la Torah, pour qu'il s'accomplisse, il faut qu'il y ait une kavana. Kavana, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'intention de faire cette melacha. Ça, c'est la huitième condition. C'est-à-dire, comment je traduis ça en condition, cette condition-là qui n'est pas remplie. Si quelqu'un fait un acte, d'accord, un acte interdit pendant Shabbat, mais il n'a pas eu du tout l'intention de le faire. Attention, ne pas confondre avec mit'asek qu'on a vu il y a quelques cours. On parle de quelqu'un qui agit. Et c'est pas mit'asek. C'est quelqu'un qui s'appuie sur le mur, et en s'appuyant sur le mur, le bouton il s'allume. Il n'a pas du tout pensé à allumer. Là, on parle de quelqu'un qui va agir, mais il n'a pas l'intention de faire l'acte interdit. Donc là, et c'est très spécial, c'est une raison que j'ai laissé ça pour la fin, ça passe d'un interdit de la Torah directement à moutard. Alors bien sûr, il faut que j'explique parce que c'est pas compréhensible ce que je viens de dire là. Mais je vais vous dire un exemple. En fait, c'est l'exemple de la Gemara. Exemple très connu, et c'est ça, à chaque fois qu'on veut citer ce tnaï, cette condition, on cite cet exemple. Je vais vous donner l'exemple et vous allez beaucoup mieux comprendre. Ça s'appelle l'exemple du banc. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Quelqu'un est dans un champ, on va dire un champ où il doit semer. D'accord ? Un champ qui est prêt à semer. Cette personne-là, on va dire qu'elle a, elle a un hangar au bout du jardin. Et il a eu beaucoup d'invités le Shabbat, et il a besoin de prendre un banc qui se trouve du hangar jusqu'à chez lui à la maison. Entre son hangar et sa maison, il y a un champ qui est prêt à être cultivé. Donc terre fraîche, prêt à être semé, prêt à semer. Qu'est-ce qu'a fait cette personne? Elle décide d'amener le banc. Donc, elle est en train d'amener le banc du hangar, mais elle le traîne par terre, elle n'a pas la force de porter. Elle le tire par terre. Maintenant, en tirant sur le sol, il peut avoir un sillon, c'est pas sûr, c'est pas forcé. Je parle d'un cas que c'est un petit banc et je parle d'un cas où la terre elle est pas tellement molle. C'est possible, d'accord, on va dire c'est possible qu'il va avoir un sillon. On va dire que une personne tire, il y a deux personnes qui tirent, il y en a un qui va faire un sillon et il y en a un qui va pas faire un sillon. C'est pas sûr 100% que le sillon va être fait, mais c'est tout à fait possible. Et il y a peut-être même aussi une grande chance qu'il y ait un sillon. Alors cette personne, est-ce que lorsqu'elle va transporter ce banc, elle a l'intention de faire un sillon? Elle n'a pas du tout l'intention. D'accord? Si elle veut semer, elle prend un tracteur. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc elle n'a pas l'intention de faire un sillon. Elle a l'intention de déplacer le banc. Donc voilà la condition qu'on est en train de dire. On va dire que cette personne, elle a amené le banc chez lui à la maison. Et derrière, elle se retourne derrière, elle voit un sillon qui a été fait. Donc l'action a été faite. Seulement, il n'y a pas eu de kavana, il n'y a pas eu de pensée, d'accord ? Il n'y a pas eu de pensée, il n'a pas été mis de kavana à cet acte interdit. Alors là, s'il manque cette condition, même si l'action a été faite, on passe de l'interdit ici de la Torah, a priori, qui est ici, on n'a pas dit ça, quel interdit c'est ici ? C'est semer, ça fait partie de semer, faire un sillon, c'est un des travaux qui va aider à semer. Donc même si on n'a pas mis la graine, et qu'on... En fait, c'est pas semer, c'est, excusez-moi, c'est choresh, c'est labourer. Donc, en faisant le sillon, on laboure. Et le sillon a été fait, la terre a été labourée. Mais la personne n'a pas pensé à ça. Et elle le savait très bien, elle savait que c'était possible que ça se fasse. Eh bien, cette condition n'a pas été remplie, elle n'a pas pensé à faire un sillon. Et ça devient entièrement moutard. Moutard, ça veut dire que c'est permis. Alors là, il faut comprendre. Parce que ça a l'air d'être un peu bizarre, cette condition. Je vous donne un autre exemple. Si quelqu'un, par exemple, cette question, c'est le Rav Moshe Lévy qui la pose dans son Sefer, Menuchata Ahava. Le Rav Moshe Lévy, c'est celui qui a écrit le Sefer Menuchata Ahava, qui j'ai étudié à la Chod de Shabbat, et sur qui on va souvent nommer durant toute la suite de nos cours. Il pose une question comme ça. Il dit... Ce cas, apparemment, ça ressemble. On va dire que quelqu'un, il a un morceau de viande en face de lui. D'accord ? Seulement, il a un doute. Il avait un voisin non-juif qui avait un morceau de viande taref. Et moi, j'ai devant moi, j'avais aussi un morceau de viande cachère. Il a commencé à avoir un doute. Le morceau de viande qu'il a en face de lui, est-ce que c'est un morceau de viande cachère ou c'est un morceau de viande taref ? On ne parle pas qu'il invente des soupçons. On parle qu'il a un vrai, vrai doute. Alors, est-ce que cette personne a le droit de manger ce morceau de viande? C'est évident qu'il n'a pas le droit. Il y a une règle qui nous dit « Safek de Oraita, la Khumra. Tout doute que j'ai dans un acte qui est interdit par la Torah, on s'abstient. Peut-être que c'est taref. » Donc, c'est sûr que je n'ai pas le droit de manger. C'est un din qui est écrit dans la Gemara. Je n'ai pas le droit de manger. Il demande, ici ça doit être pareil ici. Pourquoi? Je prends mon banc. Est-ce que il va avoir un sillon? Oui. Est-ce que c'est tout à fait possible? Oui. Si le sillon est fait, ça s'appelle un acte de la Torah. Donc comment je peux déplacer mon banc? Peut-être que ça va avoir un sillon. C'est-à-dire quoi? Je ne suis pas mit kavel. C'est-à-dire quoi? Je ne pense pas. Mais je ne pense pas, mais tu sais très bien que c'est très possible que le sillon va être fait. Donc comment, c'est quoi, il faut expliquer, il faut bien expliquer cette règle-là qu'on est en train de voir ici, cette dernière règle. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas l'intention de faire le sillon, mais tu sais très bien que c'est très très possible que le sillon va être fait. Et l'action va être commise. Ça s'appelle que tu as labouré le champ. Non, je ne suis pas mis de Kaven. Ça ne suffit pas pour permettre. Il y a un vrai doute sur un acte qui est interdit de la Torah. C'est exactement la même chose que la personne elle va dire. Non, peut-être que ma viande elle est cachère. Et malgré que j'ai un vrai soupçon que peut-être c'est une viande d'un rêve, je la mange. Non. Et en plus, on sait que la halakha dit clairement qu'on ne peut pas manger quelqu'un qui a un vrai doute, un vrai soupçon. C'est sûr qu'il ne peut pas manger. Donc pareil dans notre cas, nous, pourquoi on permet? On va essayer d'amplifier un peu la question. Et regardez, par exemple, on a dit dans la première condition, je reviens à l'exemple de la première condition qu'on a parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui fait un trou dans le sol et il n'a pas l'intention de faire une fondation pour là on n'est plus sur un champ de semer, on est sur un champ de construction. Il fait un trou, ça s'appelle interdit de la Torah, construire. Faire un trou de fondation, ça s'appelle construire. Et la personne a l'intention de, pas de construire. Et non, Mitkaven, il n'a pas l'intention à construire. Il a l'intention à utiliser la terre. Alors là aussi, pareil. Ça, apparemment, ça ressemble à ce qu'on est en train de dire. Et non, Mitkaven, je n'ai pas l'intention de faire le trou de la fondation. Pareil, la personne, je déplace mon banc, je n'ai pas l'intention de faire un sillon. Pourquoi? Là, on a dit qu'on descend de niveau et ça devient interdit par les Chachamim. Et dans notre cas, nous, dans le cas du banc, on dit que tu n'as pas eu l'intention, même si le sillon a été fait, c'est permis. C'est bizarre, pourquoi on ne compare pas ça à la première condition de Melacha avec un but, l'histoire du trou, où il n'a pas eu l'intention de faire le trou, il a juste pensé à autre chose. Donc, il n'a pas été mis de caverne, il n'a pas eu la pensée à l'action interdite. Donc pourquoi on ne compare pas ça ici? Et on va dire qu'au moins ça sera interdit par les Chachamim. Pourquoi ça devient moutard? C'est ça ici qui est intéressant. D'accord? Pourquoi dans notre cas, nous, quelqu'un qui prend un banc et qui très fort probable qu'il fait un sillon, d'accord? Et que le sillon a été fait. Le sillon a été fait. Et on demande à cette personne de faire un sillon. On dit non, moi j'ai pas du tout l'intention de faire un sillon, j'ai l'intention de déplacer le banc. Mais tu sais très bien que c'est très possible. On ne regarde pas ça et on le permet. Ça, il faut comprendre. Est-ce que la question est claire? Oui, tout le monde a compris la question? Pardon? On permet, c'est permis. Ah non, permet. Quand je dis permis, c'est permis. On a dit toujours dans les cours d'avant. Ah oui, permis, c'est permis. Quand je dis le mot permis, c'est-à-dire que c'est permis. Rappelez-vous. Oui, lorsqu'on n'est pas sûr que le sillon va faire, même si le sillon a été fait, d'accord, même si le sillon a été fait, on dit que cette personne n'a rien transgressé, ni un interdit de la Torah, ni un interdit des Chachamim. C'est permis de le faire. Rappelez-vous que toutes les actions, on les sélectionne en trois parties. Ou permis, ou interdit par les Chachamim, ou interdit par la Torah. Donc ça, c'est une action permise, et ça, il faut comprendre. Pourquoi c'est permis? Quelle différence entre quelqu'un qui a un morceau de viande devant lui, qui a un doute? Peut-être que c'est un morceau de viande taref qu'on lui interdit de manger. Peut-être que c'est cachère, peut-être que c'est taref. Pareil ici, peut-être que si on va se faire, peut-être que si on va pas se faire. Comment on peut permettre? Alors l'explication de la chose, elle est comme ça. L'explication, elle est... Ce que ici il s'agit de deux actes différents. C'est-à-dire, il y a deux actes. Il y a un acte, contrairement à tout ce qu'on a vu dans les cours d'avant. Tous les cours d'avant, on a dit qu'il y avait une seule action interdite. Seulement, il y a une condition qui n'a pas été remplie. Il n'y a pas une action permise qui s'est ajoutée à l'action interdite. Dans notre cas, nous, on a deux actions simultanées. Simultanées en même temps, oui. C'est-à-dire, j'ai une action qui est amplement permise. Prendre un banc d'un endroit et l'amener dans un autre endroit. Kamouven, bien sûr, je ne suis pas dans un domaine public, je suis chez moi. Le champ, c'est chez moi, c'est privé. Donc l'action, elle est entièrement permise. Maintenant, le problème, c'est que quand je suis en train de faire cette action permise, il y a en même temps une action interdite qui se fait. C'est le sillon. Donc c'est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a dit que quelqu'un fait un interdit de la Torah, seulement il lui manque une condition. Mais là, il est en train de faire une action qui est complètement permise. Seulement, en même temps, il y a une action interdite qui se fait. Alors là, on va dire comme ça. Puisque toute l'intention de la personne, elle est dans l'action permise. Et que l'action interdite n'est pas sûre et 100% qu'elle va être faite. C'est pas sûr. Alors, même si elle se fait, on va considérer ça que l'action s'est faite d'elle-même. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai fait une action permise. Ça, on peut le dire lorsque j'ai deux actions qui viennent ensemble, une action permise et interdite. C'est compliqué ? Je reprends. Alors, on reprend.
C'est bien compliqué pour la personne, elle est chez elle.
Oui.
Elle fait ce qu'elle veut.
D'accord.
À mon avis.
Mais elle fait aussi un sillon.
Oui.
Donc,
dans un sens.
Mais dans l'autre sens, elle déplace un banc. Mais ça se fait en même temps. Donc, c'est ça qui est intéressant ici. Elle fait une chose permise et interdite à la fois.
Voilà, voilà.
Contrairement. Contrairement à mon morceau de viande de tout à l'heure, j'ai mon morceau de viande, j'ai un vrai doute, je ne crois pas que j'invente des doutes, ouais. J'ai un vrai doute que c'est peut-être un morceau de viande taref. Là, je fais qu'une seule action, je mange.
Oui.
Donc, si je mange et que j'ai un doute, est-ce que c'est cachère ou taref, alors je ne peux pas manger. Mais là, c'est différent, là j'ai une action permise et une action interdite qui se fait en même temps. Et toute ma pensée, elle est complètement concentrée sur l'action qui est permise. Alors l'action interdite qui se fait, ben, ça se fait de soi-même, ça ne s'appelle pas une action. D'ailleurs, Rabia, je veux dire que ce principe-là, il n'est pas seulement dans la faute de Shabbat. Il est dans toute la Torah Kula. Je vous donne un exemple, un cas qui n'est pas très pratique. C'est un cas, par exemple, du nazir. Vous avez entendu parler, on a vu ça dans la paracha il y a deux semaines. Le nazir. Ben, le nazir, c'est théorique, hein, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe. Hein. Mais un nazir qui a des longs cheveux, il n'a pas le droit de s'arracher les cheveux. Il n'a pas le droit de couper les cheveux. C'est interdit. D'accord. Il ne peut pas, ici, il a fait... D'accord, on parle de quelqu'un que c'est pas... On ne peut pas dire que c'est interdit par la Torah de se couper les cheveux. Spécialement le nazir qui a été mécabel sur lui de ne pas se couper les cheveux. Est-ce qu'il peut faire un shampoing, ce nazir? Il veut se laver les cheveux, il a le droit de se laver les cheveux. Est-ce qu'il veut faire un bon shampoing? Eh bien, il a le droit de faire un shampoing. Maintenant, quand on fait un shampoing, beaucoup de fois, il y a des cheveux qui s'arrachent. Mais pas toujours. Des fois oui, des fois non. Maintenant, quand on fait un shampoing, est-ce que j'ai l'intention de m'arracher les cheveux? Non, j'ai l'intention de laver les cheveux. Donc encore une fois, le même principe ici. Une action permise, avec une action interdite, on va dire qu'après la douche qu'il a fait, il y a des cheveux qui sont sortis, mais c'est permis. C'est permis parce que c'est pas, il n'a pas pensé à ça, c'est Enomit Kaven, et donc c'est ça qui devient moutard. Contrairement au cas du trou que j'ai parlé tout à l'heure, la deuxième question qu'on a demandé. Le trou, quand je fais un trou, j'ai l'intention de faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je te fais un trou, faire un trou pour la fondation, c'est l'action interdite. Prendre le hafar, c'est l'action permise. Mais le problème qu'il y a ici, tout à l'heure on a dit ça, on descend de niveau, ça devient l'interdit des rabanan. Le problème qu'il y a ici, c'est que faire un trou pour une fondation ou faire un trou pour prendre la terre, c'est le même acte. C'est exactement le même acte. Donc là, on ne peut pas dire, je n'ai pas l'intention de faire ça. Là, on descend de niveau, c'est une action sans but qui devient interdite par les chachamim. C'est clair? Maintenant, on avance. Si maintenant, on va prendre la même histoire, hein, on va prendre la même histoire du banc. Mais là, on a exactement la même chose. Il veut aller chez lui, il veut prendre le banc du hangar chez lui à la maison. Le problème, c'est que la terre, elle est très, 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 très molle. Et le banc, il est très lourd. Et donc, ma pensée à moi, elle est bien sûr de déplacer le banc. Mais là, c'est 100% que le sillon, il va se faire. Alors, est-ce qu'on va permettre ici aussi ou pas?
Non, on ne peut pas permettre.
Alors là, on ne va pas permettre. Là, on ne va pas permettre et ça sera interdit par la Torah. Pourquoi? Alors là, je vais vous dire comment ça s'appelle ça en hébreu. Dans le langage de la Gemara, bien sûr. Ça s'appelle... Les Chachamim, ils ont trouvé un mode comme ça pour nous faire comprendre un peu l'absurdité qu'il y a en fait dans cet acte. Ça s'appelle, je vais vous dire comment ça s'appelle en hébreu, je vais vous traduire. psik reche velo yamut. Ça veut dire quoi ça? Couper la tête et il ne va pas mourir. De quoi il s'agit là? De quoi on parle? Alors la Gemara nous explique comme ça le cas. Quelqu'un, il a un poulet en face de lui. D'accord? Maintenant, les jeux de l'époque, il n'y avait pas assez de jeux à l'époque de la Gemara. Et les jeux des enfants, ils s'amusaient avec les têtes de poulet. Les intéressaient, les têtes de poulet. Donc la personne a dit, regarde, j'ai un enfant qui veut s'amuser avec la tête de poulet. Je vais prendre la tête du poulet, je vais lui couper la tête, mais j'ai pas du tout l'intention que le poulet meure. C'est possible de dire une phrase pareille?
En fait,
j'ai pas du tout l'intention qu'il meure, mais je veux qu'il s'amuse avec la tête. C'est complètement absurde. C'est impossible de dire une chose pareille. Donc ça, c'est ce que la Gemara nous dit pour nous faire comprendre ici ce cas-là du cas du 100%. Psychréché, on lit ça en fait en s'étonnant. Psychréché, vélo yamout, quand tu lui coupes la tête, il va pas mourir, c'est sûr qu'il va mourir. Ah, mais moi, j'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai pas pensé à tuer le poulet, moi, j'ai voulu juste m'amuser avec sa tête. C'est impossible. Lorsque l'action interdite que je fais avec l'action permise, c'est 100% qu'elle se fait, alors là, la personne ne peut pas dire j'ai pas eu l'intention. Donc c'est comme si tu avais l'intention à l'action interdite. On ne peut pas dire que l'action interdite s'est faite d'elle-même. D'accord? Voilà, ça c'est exactement ce que la Gemara, dit. Eh bien, on applique cette formule-là pour dire, en notre cas, nous exactement, quelqu'un il prend un banc qui est très lourd et sur une terre qui est très molle. Moi, je pense, je veux juste déplacer le banc. Mais 100% que le sillon il va se faire. Alors là, on peut pas permettre. C'est 100% qu'il va avoir un sillon. Donc là, c'est vrai que la personne elle dit, j'ai pas l'intention de faire un sillon. Mais tu sais très bien que c'est 100% que ça va se faire un sillon aussi. Donc là, c'est sûr que c'est interdit. Donc dans d'autres conditions, on a. Et là, où est-ce qu'il y a la différence entre les deux cas? Est-ce que c'est.
Excusez-moi.
Oui. Ah oui, ça c'est sûr, c'est certain ça. Exactement. Donc la Gemara l'utilise comme vous m'en dites exactement. La Gemara est en train de dire sur le cas du banc qui est très lourd et qui est la terre qui est très fertile. Je vous donne un autre exemple, vous allez bien comprendre, d'accord. Quelqu'un, il est chez lui dans sa maison, il a une terre qui est fertile, ouais. Et il décide, ils ont fait un pique-nique chez lui à la maison, dans le jardin, et il décide de faire netila, donc il faut qu'il mange du pain, il faut qu'il fasse netila tedaim. Donc il prend un keli avec de l'eau, d'accord, un seau d'eau, et il fait netila. Où est-ce qu'il fait netila? Sur la terre. Il y a des graines là-bas qui ont été plantées, on va dire. Alors, on est d'accord que la personne, elle n'est pas en train d'arroser, parce que c'est pas comme ça qu'on arrose, on arrose avec un tuyau. Et la personne, elle dit, moi, je veux pas arroser, moi. Moi, je veux faire netila. D'accord? Mais 100% que l'eau, il va tomber sur l'endroit où il y a la terre fertile avec les graines. 100%. Donc, c'est encore un autre exemple. Pareil. Psychréché, velo yamut, c'est 100% que ça passe. Quelle est la différence entre davar chez Eno mitkaved? J'emploie les formules qui sont les formules de la Gemara. Davar chez Eno mitkaved, c'est dire, j'ai pas l'intention et qu'on permet. Et quelque chose qui n'est psychréché, qui est sûr que ça se fait et que ça sera interdit, malgré que je n'ai pas eu l'intention, la différence elle est de quelques pourcentages. Si on va dire que c'est 90% que l'action interdite, on va dire même 90%, d'accord, 90% que l'action interdite va être faite, 10% que l'action interdite ne va pas être faite, et qu'en même temps je fais une action qui est permise, eh bien, c'est moutard. Pour que ça soit interdit, pour que l'action soit interdite, d'accord, pour que l'action soit interdite, il faut que ça soit du 100%. Le 100%, il va en fait faire transformer mon Eno Mitkaven en Mitkaven. On ne peut pas dire ici que je n'ai pas l'intention. Quand est-ce qu'on peut, on ne peut pas dire que je n'ai pas l'intention? Dès que c'est 100% que l'action interdite se fait avec une action permise. Clair? Oui.
Je
Oui.
Involontairement, je fais une trace dans le salon. Là, je suis une table.
Alors, une trace dans le salon. Chaque acte, il faut étudier, il faut voir. Vous me voyez là ou vous ne me voyez pas? Parce que je vois qu'à chaque fois, il y a le... Ah bon. À chaque fois, ça disparaît la... Alors, je vais vous expliquer. L'action, il faut étudier chaque action. Chaque action, est-ce que c'est une action permise ou interdite? Prendre un banc et faire une trace dans un sol. En général, c'est du sol carrelé dans une maison. D'accord? En effet. Alors, si c'est un endroit où c'est de la terre qui est fertile, c'est une action, c'est une mélacha. Mélacha de chorèche, de labourer la terre. Si c'est un endroit qui est carrelé ou cimenté, alors il n'y a aucun problème. Où est l'action interdite ici? Ni je sème, ni je construis, il n'y a rien, donc il n'y a aucun problème. Chaque cas, il faut l'analyser. Est-ce qu'on rentre dans la catégorie des 39 ou pas? Maintenant, on va un petit peu avancer, on va rajouter un dernier détail et avec ça on va terminer. Il n'y a aucune différence entre un Issour Torah et un Issour des Chachamim, bien sûr. C'est-à-dire, tout ce que je viens de dire avant avec le banc, d'accord, même si par exemple j'ai un interdit qui est entièrement fait par les Chachamim, et que je fais en même temps une action qui est permise, et qu'il y a une action interdite par les Chachamim, si c'est 100% que ça se fasse, ça sera interdit. Si c'est pas 100% que ça se fasse, bien sûr, à plus forte raison que ça sera permis. Parce qu'on permet ça même dans un interdit de la Torah. Un exemple, il y a une mouche qui m'embête, on va dire. Et j'ai une genre de boîte comme ça. D'accord? J'ai une boîte avec un couvercle. Je vois que la mouche, elle est rentrée dans la boîte. Donc qu'est-ce que je fais? Je ferme le couvercle de la boîte. D'accord? Maintenant. Moi, lorsque j'ai fermé le couvercle de la boîte, c'était je voulais ranger mes objets dans la boîte et je ferme le couvercle de la boîte. C'est une action qui est complètement permise, le Shabbat, fermer une boîte. Mais il s'avère qu'il y a une mouche dedans. Et je suis bien content en même temps aussi qu'elle a été capturée. Alors, capturer une mouche, il y a dans les 39 interdits, il y a la mélacha qui s'appelle tsad, capturer. Mais une mouche, c'est un interdit par les chachamim. Parce que on capture pas des mouches. On va pas chasser des mouches. Donc c'est un interdit qui est les chachamim. Quelle condition n'a pas été remplie ici? C'est la condition d'un acte anormal. On chasse pas des mouches, on capture pas des mouches. Donc c'est, on descend de niveau, c'est un interdit par les chachamim. Maintenant je fais une autre action en même temps qui est permise, fermer le couvercle. Mais 100% quand je ferme le couvercle, la mouche elle est coincée. Donc ça, on ne peut pas faire Shabbat. Pourquoi? Parce que l'action qui est interdite par les Chachamim, qui est de capturer la mouche, elle va être faite 100%. Même si moi, je n'ai pas l'intention à ce moment même, je suis bien content, oui. Ça s'appelle Nihalé. Je suis content que la mouche a été capturée, ça oui. Mais je n'ai pas eu l'intention à ça. Moi, j'ai eu l'intention de fermer mon couvercle. Donc je fais une action permise avec une action interdite par les Chachamim. Mais c'est 100% qu'elle va être faite. Et donc là, ce sera aussi assuré. Il n'y a aucune différence. C'est parce que ça s'appelle, dès que c'est du 100%, c'est comme si je fais l'action interdite directement. C'est ça ici la règle. Dès que c'est pas 100%, dès que c'est plus 100%, ça s'appelle que je suis concentré sur l'acte permis et l'acte interdit, ça ne me regarde pas. Dès que ça, donc c'est deux extrêmes. Dès que c'est un acte interdit qui se fait même avec l'acte permis, on ne peut pas dire je ne le pense pas. C'est comme si je l'avais fait direct. Mais dès que c'est un acte permis avec un acte interdit, c'est pas 100%. On ne regarde pas l'action interdite et c'est entièrement permis, que ce soit un issur Torah et que ce soit un issur des Rabbanan. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On laisse la suite pour la semaine prochaine? Vous voulez continuer? D'accord.
Peut-être qu'on va laisser l'opportunité aux gens d'avoir la fin de cette partie super intéressante.
Parce que c'est, il nous manque encore un détail, mais un détail qui est assez important, donc on va laisser quand même pour la semaine prochaine. Venez d'abord.
Comme tu veux, mon détail.
Ouais, je préfère laisser ça pour la semaine prochaine. On va, pour terminer, parce que je voulais terminer le cours, donc on va terminer ça la semaine prochaine, c'est un détail important. je vous conseille de bien réécouter tous les cours d'introduction. Les cours d'introduction, ils sont assez complexes. Ça ne va pas être comme ça par la suite. Mais c'est très, très important. Et donc, vous avez tout le temps de réécouter ça, de réécouter ça. Et en écoutant plusieurs fois, là, ça sera bien intégré. Et ça va beaucoup nous aider pour la suite des cours. Voilà. Ok, Shavua Tov à tout le monde, bonne semaine. Bonne semaine.
Également.
Au revoir, bonne soirée. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des Zach qui sort du coma. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un. Donc c'est un acte bizarre. La Torah n'interdit pas des actes qui sortent du commun. Ou bien même mieux encore, une mélacha qui se fait avec deux personnes, moitié-moitié. Ça aussi on dit. Une mélacha, il faut la faire entière du début jusqu'à la fin. L'exemple qu'on a donné, quelqu'un qui est un guide qui prend du domaine privé et qui passe ça dans la main de quelqu'un.